c'est notre petit point presse pour la deuxième grande commission d'attribution des logements de Magnon. La première avait eu lieu à peu près il y a un an. Je ne crois pas la première. Mais celle-ci était véritablement très importante. Vous savez qu'elle marque la livraison de la Tour Odéon pour près de 150 logements. Et ça se rajoute une centaine d'appartements dits de restitution dont le rythme a considérablement été accéléré depuis notre intervention, depuis que nous avons été élus. Nous avions demandé qu'il soit mis en place des structures de foncières d'État pour accélérer le rythme de rénovation et de rapprocher le délai entre livraison des deux clés, entre un moment où un compatriote et une compatriote rend l'appartement et le moment où il leur est reproposé puisqu'il est rénové. C'est en pratique ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu en un an près de 100 appartements à proposer. Donc ça, nous nous réjouissons là-dessus. Deuxième chose également, il y a eu lundi dernier, indirectement lié à cette commission d'attribution, une commission d'attribution des locaux commerciaux domaniaux, y compris dans le socle de la Tour Odéon. Vous savez que la majorité, en plein accord avec le président de la commission du logement, avait décidé, après une réunion sur place, après une visite sur place, de changer la destination des appartements, du socle de la Tour Odéon, en les transformant en bureaux, puisque nous considérons qu'après s'être rendus sur place, ils étaient impropres à l'habitation. Les fameux 17 appartements que nous assumons complètement et totalement. Donc, nous allons vous faire un point, et nous sommes à votre disposition sur les chiffres. Le président de la commission du logement a beaucoup parlé aujourd'hui, ce qui est tout à fait normal, avec des chiffres importants, précis, un certain nombre d'enseignements que nous avons tirés de cette deuxième commission d'attribution très importante depuis notre élection. Et on peut commencer déjà à voir les résultats de ce que vous m'avez demandé, et qui se profilent. Également des perspectives, nous pouvons également répondre sur les différentes opérations intermédiaires puisque nous avons eu des informations de la part du ministre d'État il n'y a pas longtemps, il y a une réunion entre M. Cucchi, moi-même et le gouvernement, en petit comité, parce qu'on a demandé des précisions sur les engagements du budget primitif. Et donc je crois que nous allons tout faire pour essayer d'amortir le choc de l'année 2016 et de l'année 2017 sans livraison de programmes de manuaux, bien qu'il soit possible qu'à la fin de l'année 2017, nous ayons deux petits programmes livrés, c'est-à-dire l'opération Villa del Sol et l'opération Annuncia, telle que le gouvernement s'est engagé, et puis on n'est pas non plus à l'abri d'une bonne surprise. Dans les quelques mois qui viennent, probablement d'ici la rentrée. Et également, et après je vais laisser la parole à Jean-Michel Cucchi, je suis bien entendu également à disposition pour toutes les questions que vous voudrez poser. On a pu constater dans le cadre de la commission de placement de fonds, auquel participe M. Cucchi, aux côtés de M. Guérini moi-même, et notamment de l'opposition, que notre demande en termes de préemption dans le secteur protégé, nos demandes ont été plus que suivies par le gouvernement, dans la mesure où il n'y a jamais eu autant de préemptions. Je crois que nous en sommes depuis maintenant 2 ans, je ne vais pas dire de bêtises et d'approximations, autour d'une cinquantaine d'appartements préemptés, ce qui est absolument considérable. Dans le secteur protégé, ce qui ne s'est jamais passé, je ne vous parle pas uniquement des appartements. Il y a par exemple la Villa del Sol, elle a été préemptée avec 5 ou 6 appartements dedans.
Pour quelle enveloppe ?
Pour une enveloppe globale depuis 2 ans, qui doit approcher, je pense, les 80 millions d'euros, pas loin, si on compte tout, de tête, pour poser une question, mais c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire, racheter du foncier et de la pierre à Monaco pour l'État, qui en plus contrôle les droits à bâtir et contrôle l'ossature future de l'urbanisation, de l'urbanisme par quartier, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on est vraiment, je pense, quand on commence à mettre bout à bout l'ensemble de ces éléments, bien entendu, il y a beaucoup de travail, c'est un travail quotidien, et M. Cucchi est super mobilisé avec les équipes de permanents au Conseil national et l'ensemble des élus de la majorité, mais on commence véritablement à avoir à ce que se dessinent les résultats de ce que nous avons demandé depuis 2 ans. Vous vous souvenez que notre approche est à la fois qualitative et quantitative. Donc, pour le détail de la commission qui s'est déroulée hier, je vais passer la parole à M. Cucchi avant que vous ayez une question. Et puis après, bien entendu, avant de prendre à votre disposition.
Juste la Villa del Sol, c'est quel endroit ?
La Villa del Sol, c'est derrière, c'est un, un Saint-Romand. Et c'est juste avant l'entrée des parcs Saint-Romand, vous savez, du complexe du parc Saint-Romand. Et qui est c'est une belle entité et qui pourra, je pense, les dernières informations que nous avons, qui fournira entre 27 et même 30 logements avec des garages attenants. C'est une très belle, oui, une belle propriété, un beau foncier, dans Tournant. C'est dans Tournant. J'ai fait l'objet d'une préemption au mois de novembre dernier, validée par la commission de personnalité au mois de décembre. Voilà, donc je vais passer la parole à M. Cucchi. À votre disposition aussi, parce qu'il y a plein d'éléments à vous donner.
Oui. Bon, évidemment, on est pour vos questions, si vous avez des questions à poser. Donc, ce qui est intéressant de constater, d'abord, c'est deux choses qu'a souligné le président qui sont importantes, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'appartements de restitution mis à disposition, ce qui explique pourquoi on a atténué les résultats de cette commission d'attribution qui prennent en compte évidemment cet appartement supplémentaire. Je reviendrai dessus. Donc, on avait évidemment tout à fait raison, le président l'a souligné, de demander cette accélération. Il y a une chose importante, je pense que vous avez remarqué même dans la communication de nos amis du gouvernement, c'est qu'ils ont fini par se rendre à l'évidence que ce que nous disions pendant la campagne et qui est le fondement de notre programme politique concernant le logement était la vérité, c'est-à-dire qu'il y a un réel problème de logement qui ne pouvait pas être résolu seulement par la Tour Odéon et éventuellement derrière par Testimonio. Il y avait donc besoin de constructions supplémentaires auxquelles s'ajoute évidemment une vision de dépasser le côté purement quantitatif et s'intéresser au qualitatif. Parce que c'est seulement par cette voie et par une vision à long terme du logement qu'on pourra le résoudre. Nous, notre but, c'est de vous dire la vérité. On n'a jamais dit qu'on résolverait tout en 5 ans. C'est impossible en ayant 3 ans de retard quand on commence. Même sans les avoir, c'est difficile de faire en 5 ans. Nous allons nous attacher, et nous nous sommes attachés depuis le début, ne serait-ce que avec notre demande insistante entendue par le gouvernement d'accélérer et de favoriser au maximum les préemptions et en particulier dans des secteurs choisis d'être très proactifs dans ce domaine parce que seule la restructuration des quartiers et seule une vision globale avec des phasages globaux, je dirais presque un plan logement sur 15 ans nous permettra de résoudre enfin ce problème récurrent.
Horizon 2030.
Je pense que oui. Je pense que
c'est 15 ans, on est 2015, on doit avoir un plan. Et c'est vraiment, on s'y est attelé, d'ailleurs, tous les deux, avec Jean-Michel. En fait, on veut absolument, et on va faire des propositions très précises dans ce sens, dans les mois et les années qui viennent, de façon à mettre des propositions constructives, cohérentes et raisonnables, faisables, pour assurer à nos compatriotes des livraisons régulières jusqu'en 2030. En fonction des besoins, en fonction de la courbe démographique, en fonction du changement des besoins, de recomposition des familles, de l'application des gardes alternées, des divorces très important, du vieillissement de la population aussi. Donc tout ça doit être pris en compte, à la fois l'analyse des... On a maintenant, le centre de gérontologie est ouvert depuis 3 ans, donc on a un certain recul sur l'évolution du quatrième âge. Donc nous, on veut véritablement lancer une réflexion très apaisée, très calme, au milieu de la législature, pour que jusqu'à 2030, on puisse, en plein accord avec le gouvernement, développer un certain nombre de pistes. On est dans notre rôle. Vous vous souvenez de la déclaration qu'a fait Jean-Michel Cucchi pendant le budget primitif sur IDA et sur le phasage. Nous y sommes très attachés. Nous considérons qu'aujourd'hui, on est obligé de raisonner avec un phasage par quartier sur 15 ans. Et IDA en est un exemple parfait. Et qui permet à la fois, dans cette opération, de répondre aux besoins immédiats des compatriotes et des enfants du pays, de l'école maternelle, phase 1. Deuxième, phase 2, de répondre à la possibilité de reloger un certain nombre de propriétaires privés, il y en a près de 80. Et phase 3, derrière, les cèdres, etc. C'est pour nous, dans le cadre dans notre réflexion, nous n'avons pas encore les études techniques, elles sont lancées. C'est une réflexion que nous avons pour le moment sans les études techniques, mais une réflexion de bon sens de conseils nationaux que nous sommes. Nous sommes dans notre rôle. Et là-dessus, je pense que c'est très important. Donc finalement, on a ce dossier IDA auquel on est très attaché. Le bébé du docteur Cucchi est bien aussi. Et on voudrait développer en fait ce processus IDA dans d'autres quartiers. Voilà, c'est ça notre idée. Que ce soit le quartier des Fleurs, que ce soit l'impasse des Carrières. Et ces trois quartiers seront essentiels, parce que je vous rappelle qu'il y a un testimonial comme grand chantier, qui fera l'objet d'une loi de désaffectation vraisemblablement au mois de juin prochain, près de 160 logements pour nos compatriotes. Derrière, il y aura l'opération de la Lancelle 2 également, nous n'avons pas encore de quantification là-dessus. Et notre rôle est d'assurer jusqu'en 2030 au moins cette vision sur différents quartiers avec des livraisons régulières. Voilà. Pardon de vous avoir monopolisé la parole.
Je pense que c'est important parce que les chiffres, on va les donner et ça intéresse les activités immédiates, mais. C'est pour chaque fois répéter la même chose sans solution et sans vision pour l'avenir, ça ne sert à rien. Et on ne peut pas aujourd'hui vouloir faire une politique du logement pérenne sans dès à présent penser, certes, on a 3200 logements, mais il y a des monégasques, le nombre de nos compatriotes augmente, et tant mieux, je veux dire, ça va être une population dynamique, on ne va pas s'en plaindre. Hein. C'est nécessaire. Mais comme le disait le président, les structures sociales et les besoins se modifient, ne serait-ce que par l'addition de la population, par le fait que les familles recomposées représentent un pourcentage plus important, de plus en plus important dans la société. Et surtout, que si on veut pouvoir restructurer les appartements de première génération, ce qui va devenir indispensable, si on ne peut pas reloger ces gens-là, on ne peut pas le faire. Donc, bien, nous avons des idées, des pistes de réflexion que nous avons déjà pensées pendant la campagne, mais chaque chose en temps. La première chose, c'était de sortir de l'urgence. Ce qu'on est en train de faire. On a résolu l'urgence.
Absolument.
On n'est pas content et satisfait dans l'absolu. On est content d'avoir fait une partie du job qui était de répondre à l'urgence liée aux 3 ans de retard stupidement pris. Aujourd'hui, on se retrouve dans la situation dans laquelle on aurait dû être si on n'avait pas eu à régler cette urgence. Donc, à penser sur le moyen terme.
On commence à prendre un petit peu de sérénité et de recul parce qu'on a dû, depuis 20 mois, trouver des solutions pour régler la situation d'urgence. Donc, tout à fait
exactement ça. Et il ne faut pas oublier quand même de se rappeler que quand nous sommes arrivés, la première chose que nous avons dit au gouvernement, c'est que nous avions dit n'importe quoi pendant la campagne électorale. Et que, évidemment, sur les gens qui ont fait les statistiques à qui on fait dire ce qu'on veut, il n'y avait pas de pénurie, et qu'avec, en faisant rien du tout, avec la tour Odéon, déjà, ça allait quasiment tout régler, et alors, avec testimoniaux qui venaient derrière, presque il y en avait de trop. On s'était fait traiter de tous les noms, tu t'en rappelles. Donc, moi, aujourd'hui, on parle de chiffres, donc on va y aller. En comptant, c'est pour ça que j'avais fait cette. Ce petit commentaire au début, en comptant l'accélération non prévus par le gouvernement des appartements de restitution, en comptant cela, aujourd'hui, hier, il y avait 240 appartements. Il y en avait 239 à la dernière commission. C'est vrai que le noir est donc un de plus.
Ça, c'est bien.
Bon, ce problème, c'est qu'il y avait 498 dossiers, il n'y en avait que 438 la fois d'avant. Donc ça aurait dû diminuer, raté. Alors évidemment, ils vont vous répondre, parce que dans ces 498 dossiers, il y a ce que eux appellent des demandes de confort, et ce que nous préférons appeler des demandes moins urgentes, parce que quelque part, que les gens puissent changer d'appartement pour un appartement de même taille, ce n'est pas toujours non plus du confort. Ça peut être des besoins parce que l'appartement est vraiment très mal situé, parce que il y a des problèmes par rapport au travail, la situation, etc. Et puis on peut aussi avoir le droit de pouvoir changer d'endroit. Mais voilà. Donc, mais c'est des demandes évidemment qui sont moins urgentes que celui qui n'est pas logé sur ses besoins. Nous en sommes tout à fait d'accord. Donc si on compte bêtement, à la dernière commission, c'était 54% de dossiers satisfaits. Ce coup-ci, c'est 48%. Tout va mieux. Bien. Mais il faut être honnête, si on compte par rapport aux gens, on ne prend que les gens qui sont logés, on exclut des demandes, des 498 dossiers, ceux qui sont logés dans le domanial, dans un appartement correspondant à leurs besoins, dans ce cas-là, on se retrouve à 57% de demandes satisfaites, ce qui veut dire qu'on a encore du travail, mais nous on le savait, c'est pour ça que la demande du gouvernement est obtenue. L'opération Angelin, les opérations intermédiaires.
Qui sont venues se rajouter par rapport à notre engagement politique, parce qu'on n'avait pas la totalité des dossiers en main.
Parce que
on a demandé des opérations en plus, parce qu'on a vu qu'il y avait véritablement. Que Angelin prendrait vraisemblablement un an plus que prévu.
Et parce que, tant qu'on n'était pas en place, c'était difficile de pouvoir démontrer formellement que les chiffres présentés. Certes, ce n'est pas faux, ce n'est pas exact, mais les hypothèses ayant mené aux études statistiques n'étaient pas les bonnes. Donc, il y a quand même un point satisfaisant. Bon, les F2 sont toujours des problèmes récurrents, ça reste constant. Les F3 et les F4 et les F5, on est dans une accentuation des soucis liés au fait justement des recompositions de famille. En particulier, notre boulot maintenant est de continuer à convaincre le gouvernement de la nécessité de faire plus de F5. Parce qu'on va vraiment se retrouver en manque. Le problème aujourd'hui est, on va dire, satisfaisant pour les F3, puisqu'on pourrait, enfin, satisfaisant, dans une contexte, puisqu'on pourrait considérer que si on sort justement ces demandes de confort, on est quasiment un nombre suffisant. En fait, tout devrait être comme les F3. Malheureusement, il n'y a que les F3. Mais bon, pas mal.
Une tension sur les deux pièces et les quatre pièces.
Une grosse tension sur les pièces et les quatre pièces. On va parler de la modification des critères. Donc. La modification des critères, alors, nous attendons les résultats des méta-analyses. Il y a ça, puisque tant que, évidemment, les appartements n'étaient pas attribués, on ne peut pas faire de calcul. Donc, on a demandé au gouvernement deux choses. Un, donc, nous donner les résultats comparatifs en pouvant faire des émulations avec les nouveaux critères et les grandes tendances qui ressortent. On peut déjà dire deux mots. Ça a nettement amélioré la situation avec les anciens critères, il y avait un effet pervers qui favorisait nettement, on va dire, des demandeurs très très jeunes, étudiants ou en tout début de carrière,
sans revenus,
ou avec très très peu de revenus, même sans revenus avec des aides extérieures, ils se retrouvaient très favorisés par rapport à des jeunes couples. Un peu plus âgés, entre 25 et 30 ans, qui, eux, travaillaient tous les deux, et donc se retrouvaient, eux, avec des revenus plus importants, et un peu pénalisés. Ça, ça a été corrigé, on l'a vu nettement. Il y a une nette amélioration, puisque quelque part, tout le temps l'assume, quelque part, un jeune ou un jeune couple qui travaille et qui commence dans la vie, il nous semble plus prioritaire qu'un étudiant qui est encore à la fac et qui peut rester chez lui. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit de se loger, mais entre les deux, on a assumé le fait de mettre en scène et de mettre en situation
les futures familles.
Les futures familles, voilà, exactement, tout à fait. Ce qui, quand même, nous semble principal. Donc, on a vu cette chose-là, on a vu aussi un certain impact au niveau, surtout un impact certain, sur les gens qui se retrouvaient dans un besoin inférieur de deux pièces. C'est-à-dire, les gens qui étaient dans un F3 et qui devaient être dans un F5, ou qui étaient dans un F2 et qui se retrouvaient dans et qui auraient eu besoin d'un F4 mais qui étaient toujours dans un F2, et que malheureusement, de commission en commission, il en restait toujours qui traînait. Aujourd'hui, à part un cas qu'on peut considérer comme vraiment particulier, tous les autres, il n'y a plus de demandeurs dont le besoin normal est de deux pièces ou plus par rapport à cette situation actuelle, qui n'est pas satisfait, grâce à la modification du critère.
Ça,
c'est un point important, il faut le dire. Ouais.
Une satisfaction.
Nous avons également demandé, alors ce coup-ci, je pense qu'on peut dire avec insistance, je veux dire pour Laurent, je reste insistance, voilà, vous avez compris. Ce que nous avions demandé la dernière fois, mais ils avaient dû oublier, je pense, parce qu'on peut pas, qu'on nous transmette enfin, parce que c'est normal, les résultats après les commissions, c'est-à-dire l'ensemble des gens, où est-ce qu'ils ont été attribués, qui est-ce qui a été refusé, pourquoi. Parce que pour pouvoir analyser les refus, nous, il nous faut notre propre idée, il y en a vraiment besoin, parce que comme le disait le président,
base de données, c'est pas ça.
Comme le disait le président, on va faire des propositions importante, on peut le dire, importante et structurante pour l'avenir dans ce dossier-là d'ici quelques mois.
L'objectif, on ne sera peut-être pas prêt, mais en tous les cas pour l'objectif 2016, on y sera.
C'est clair. Ouais. Donc,
ça correspondra très exactement au début de la réflexion active sur l'extension.
Voilà. C'est le hasard. Du calendrier. Donc, nous allons présenter ces propositions, donc, on pourrait même dire logement 2030, pourquoi pas, c'est pas mal, voilà, sur ce domaine, et nous avons absolument besoin de ces chiffres pour voir quel type d'appartements sont refusés.
Logement et commerce.
Tout à fait. Parce que reste, malgré tout, il faut le dire, l'inconnu qu'on ne sait pas, c'est l'appréciation que les gens auront des logements de la Tour Odéon.
Ça va être, normalement, ça devrait être livré fin avril, mi-mai. Donc, vraisemblablement, les compatriotes vont recevoir leur courrier dans les jours qui viennent. Et les visites auront lieu dans ce dernier-là, je pense, à mon avis, après le Grand Prix, début juin. Donc, on saura à peu près le résultat des courses fin juin.
Vous connaissez les loyers qui vont être affichés ?
Oui, les loyers, enfin la grille des loyers, on s'en est beaucoup occupé, on a énormément fait pression sur le gouvernement pour que les loyers, en gros, correspondent à la grille des loyers des jardins d'Apolline et des Nios. C'est-à-dire que même si on est dans un immeuble de grande hauteur, qui, comme vous savez, coûte beaucoup plus cher à l'entretien, parce qu'il y a des raisons d'éviter les coûts de structure extrêmement importantes, notamment après 5 ans de vie de l'immeuble, les prestations intérieures de la Tour Odéon collent très exactement à ceux d'Apolline et à ceux d'Hélios. Donc, pardon ? Voilà, donc la grille est très exactement calée sur Apolline et Hélios, c'était d'ailleurs notre demande, avec des répartitions de charges qui sont acceptables pour nos compatriotes, pour le moment, enfin sur le papier, parce que vous savez qu'il y a. C'est M. Vivalda qui sera en charge de la gestion de l'immeuble, vaste sujet, à la fois la partie privée et la partie domaniale, à la fois les bureaux domaniaux et les bureaux privés, et puis quelques commerces privés qui dépendent du promoteur. Donc là aussi, je crois qu'on aura un peu de recul sur les choses. Fin d'année. On a eu bien entendu l'engagement, mais après, vous savez que ça peut y avoir quelques dérapages. C'est ce que je vous ai dit. Par exemple, alors en fonction de la hauteur, la fourchette, c'est à peu près les deux pièces vont être dans la fourchette 750, 800, à peu près. F3, on va varier entre 900, 1200,
1300.
Voilà. Et ça dépend des hauteurs. La seule chose qu'on a minimisée, c'est comme c'est une tour, on ne voulait pas que les compatriotes qui soient placés dans les étages les plus élevés payent des loyers En revanche, les 5 pièces qui sont tout en haut, je pense qu'on sera au maximum à 2400, à peu près. Mais là aussi, si vous voulez, on a besoin d'avoir un peu de recul. Et, par exemple, pour faire un décalage, on a été saisi hier matin par un certain nombre de compatriotes qui ont reçu des augmentations, qu'est Jean Charleret, dans leurs locaux commerciaux, qui dépendent des domaines. Et des, donc on est dessus, on est en train d'analyser. Donc, si vous voulez, ça veut dire que nous, on a à la fois une cellule de veille pour la priorité nationale, mais aussi une cellule de veille pour les immeubles de Magno et pour les locaux commerciaux de Magno. Enfin, c'est normal.
Vous avez
vu déjà l'attribution
aussi des locaux commerciaux?
Oui, lundi dernier. Oui, il va y avoir pas mal de. Un certain nombre de compatriotes, de jeunes compatriotes. On s'est beaucoup battu pour qu'il y ait de jeunes compatriotes qui puissent s'installer à des prix relativement compétitifs. Je crois qu'on est autour de 300-350 euros par mètre carré par an. Voilà, qui est le prix. Mais là aussi, on n'est pas qu'il y ait. Mais bon, nous allons, et ça je vous l'annonce. Une annonce très importante, on en a parlé avec Dr Kuki. Nous allons réfléchir vraisemblablement sur des critères d'attribution également concernant les locaux commerciaux de Mondo. Parce que, par exemple, on le voit sur cette attribution de la Tour Odéon, il y a un certain nombre de professions libérales de seniors qui ont très bien réussi et qui voulaient avoir beaucoup de mètres carrés. C'est bien. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils payent le prix. Il faut qu'ils payent plus cher que les autres. Ça me paraît tout à fait normal parce qu'ils sont dans une situation senior, ils ont plus de 50 ans, ils ont des affaires qui tournent et ça me paraît normal. Donc en fait, on en a pris conscience et je pense que là aussi, on va se diriger petit à petit. C'est une impression qu'on va lancer. Il y a encore plein de pas sur la planche.
Est-ce que vous allez justement aussi encadrer le cas Pizarre qui s'est passé?
Voilà, mais sans rentrer dans la polémique du cas bizarre, là aussi, nous allons réfléchir. Il y a une cellule de réflexion très active qui comprend le docteur Kuki, monsieur Croesi, le vice-président, monsieur Burini, ainsi que madame Ping, qui, vous le savez, est en charge des affaires budgétaires et économiques au Conseil national, pour réfléchir sur une proposition de loi qui serait. Une proposition de loi sur ce sujet pour éviter, voilà, une espèce de CHC commercial, voilà, pour éviter que le cas bizarre ne se reproduise. Mais là aussi, nous en sommes à la réflexion, nous n'avons pas de souci de rendre public. Si la proposition de loi est au point, elle sera déposée avant fin juin, ou en tous les cas, elle sera déposée avant le 20 septembre.
Le principe, c'est vraiment
un CHC. Oui.
Donc, il serait transmissible comme ça, voilà. Mais à la famille ou à d'autres commerçants?
Voilà, on est en train de réfléchir à ça. Ce qu'on voudrait, vous souvenez que dans la campagne électorale, on avait commencé à réfléchir là-dessus en se disant qu'on pouvait, on considérait qu'il y avait une propriété commerciale qui s'était créée après 7 ans et un jour, ou 8 ans et un jour de gestion du fonds, de façon à ce qu'il n'y ait pas de spéculation et que ça n'échappe pas en plus à nos compatriotes méritants qui travaillent et qui ont consacré nombreuses années de leur vie à un commerce. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas facile.
Vous
réfléchissez tout ça? Oui. En fait, le souci, c'est qu'aujourd'hui, dans les domaines, il n'y a pas de commercial officiellement, mais en réalité, souvent, il y a, on va dire, des cessions de pas de porte. Voilà. Et quelque part, donc, ça favorise le premier qui rentre et défavorise les suivants. Et de notre côté, celui qui rentre, s'il a beaucoup travaillé et qu'il a investi quelque chose, il n'a rien. Donc, de valeur commerciale, il n'y en a pas. Nous, notre piste de réflexion, ça serait de reconnaître ce travail, cette valorisation, parce que toute la personne a valorisé quelque chose, mais de notre côté aussi, de ne pas se retrouver avec ce local qui à l'origine était commercial et domanial pour les Monégasques, soit cédé en seconde main à des noms monégasques qui l'achèteraient, parce que dire bon, ça ne serait pas juste pour les suivants. Donc la difficulté de toute notre réflexion est de trouver le meilleur moyen de valoriser
équitable.
Mais que l'État puisse garder la main pour que les successeurs soient.
Que l'État ait par exemple un droit de préemption, quoi qu'il arrive. Voilà, quoi qu'il arrive. Au moment de la transmission ou de la cession, au bout d'un certain nombre d'années, que l'État, quoi qu'il arrive, ait un rôle régulateur et régalien.
Voilà. Et cela passe aussi par une meilleure adaptation du prix des loyers. Que vous voyez, ça passe débat, parce qu'on voit très bien un des problèmes du domanial aujourd'hui, c'est qu'un 4 pièces à Pombières coûte plus cher qu'un 2 pièces à Lélios.
C'est pour ça qu'on va travailler sur.
Donc, nous allons travailler sur le critère, évidemment, de mobilité.
Avec des propositions très précises.
Et en même temps, demander au gouvernement de mener une étude un peu globale sur l'ensemble du parc domanial. Une étude un peu comme ferait une agence immobilière privée pour
une foncière.
Oui, c'est un mot qui ne leur plaît pas, mais bon, malheureusement, c'est la réalité.
Mais on va y arriver. Comme l'équipe dédiée sur le fonds de réserve constitutionnel, vous verrez qu'à la fin de la législature, on ne sera pas loin. Il y aura une équipe dédiée qui va gérer les locaux domaniaux et les appartements domaniaux, parce qu'il y aura pratiquement 3400, 3500 appartements domaniaux.
Et dans les tuyaux, on a un
peu sur les voilà. Et vous allez voir que il faudra une équipe dédiée. Et dans le cadre de l'habitat, une équipe dédiée.
Il faut favoriser la mobilité, parce que sinon, on ne s'en sortira pas, parce que peut-être soit extensible. Et pour favoriser la mobilité, il faut vraiment avoir des arguments pour que les gens aient pas bougé, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il faut avoir une politique des loyers qui rééquilibre les choses, parce que je vous dis, on a un effet pervers qui fait les appartements les plus beaux de Fontvieille, par exemple, comme personne ne les quitte ou très rarement, ils ont peu d'augmentation de loyer, et des appartements un peu moins beaux des dernières livraisons, comme les gens essaient de partir, voilà. Et en plus, il y a un effet pervers sur les petits, parce qu'il y a plus de turnover sur les petits que sur les gros, donc il y a plus d'adaptation de loyer. Et on se retrouve avec, je vous dis, deux pièces au troisième étage de d'Apolline, coûte trois fois plus cher que un 4 pièces au dernier étage de n'importe quel bloc de Fontvieille,
oui.
Y compris face à la mer.
Et oui, personne ne veut partir. Pourquoi ? Donc il faut qu'on crée. Alors, nous avons demandé au gouvernement de réfléchir. Il n'a pas beaucoup réfléchi, donc on va réfléchir à sa place. Comme d'habitude, c'est notre rôle. Des critères de mobilité précis, raisonnables, applicables et qui soient incitatifs. Voilà, vraiment. Hein.
Le but, c'est.
Mais il nous fallait aussi il fallait un recul de presque 2 ans de commission d'attribution et des cas précis parce que les habitudes familiales changent. Elles ont changé depuis 5 ou 6 ans déjà.
Il y a ça, et il a fallu quand même ce recul pour que finalement, on va dire peut-être des gentils rêveurs. Parce qu'on ne soit plus considérés comme des gentils rêveurs qui viennent n'importe quoi dans la campagne. Et que finalement, vu que c'est plutôt, on préférerait peut-être se tromper, hein, c'est plutôt ce que nous avions prévu qui se passe, et c'est plutôt notre façon d'appréhender le futur qui semble être celle qui marche, je pense que j'ai quand même bon espoir qu'on va arriver à la problématique. Il faut le dire, il y a un net progrès de ce côté-là.
Il y a un net progrès sur l'écoute.
Même sur les critères.
Donc, sur l'écoute de la part du gouvernement. On n'est plus aujourd'hui dans la lutte et dans la pression et dans la tension, je regarde, monsieur, ça s'est passé au mois de juillet dernier, notamment sur ce sujet, parce qu'ils sont arrivés à la conclusion que nous étions des gens raisonnables, qu'on ne disait pas n'importe quoi, qu'on ne faisait pas de la politique politicienne par plaisir, ce n'est pas notre style, mais qu'on est des gens pragmatiques. Voilà. On a écouté leur argument, ils ont écouté les nôtres, on se rapproche.
Toutes ces propositions ne sont pas pour le comité de ministère.
Oui, je pense.
Et y compris la proposition de loi sur la compromission
Elle sera, la proposition de loi, j'espère, sera déposée avant l'automne.
Absolument. Avant
l'automne. On y est. Comme les structures, les juriste du Conseil national se renforce, on a la possibilité de commencer à travailler et que M. Burini et Mme Kang travaillent beaucoup là-dessus avec M. Croisi. Mais tout ça, c'est, on ne veut pas faire des propositions qui soient des propositions bâclées. Donc ça prend du temps.
Il faut être sûr que c'est des choses qui doivent durer dans le temps, il faut être sûr que ce ne soit pas attaquable. Parce que si vous faites une chose et que quelqu'un fait un recours et qu'il gagne, tout le système tombe à l'eau. Hein. Voilà. Ça s'est déjà vu dans le passé.
On ne veut pas qu'il y ait le syndrome de la 1235 ou de la 1291. Enfin, la 1235 modifiée par la 1291 qui a été détricotée par des arrêts du tribunal suprême, des décisions du tribunal suprême, qui fait qu'aujourd'hui, on va être obligé également de s'emparer de ce sujet.
2013 est une grande année pour la commission d'été, puisque à côté de tout ça, et tel que nous sommes engagés, nous allons entamer plus que des réflexions, ces réflexions sont déjà en cours, le chantier de la réforme de la loi 1235. Et alors, je préfère le dire tout de suite parce que ça pourra le bec à certaines personnes qui attendent que ça. Le but n'est pas évidemment d'assassiner le secteur protégé. Nous ne le voulons pas, au contraire, c'est pas ce qui sera fait. Le but est de permettre, au contraire,
une réforme équitable
et que ce système perdure. Parce qu'aujourd'hui, il y a des effets pervers qui font que c'est tellement plus intéressant de se débarrasser de ces biens que de les garder dans certains cas. Eh bien, le nombre d'immeubles qui sont cédés, qui donc sortent de la loi, ne fait pas augmenter.
On le voit d'ailleurs depuis le 2014, déjà début 2015, on le voit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'appartements, de maisons et de biens dépendant du secteur protégé et une augmentation des cessions, des ventes. Et c'est la raison pour laquelle aussi le gouvernement sur notre demande, préempte de plus en plus, notamment dans les quartiers stratégiques. Donc il y a une pression, en fait, une pression immobilière sur la pierre à Monaco, sur le mètre carré à Monaco. Et là aussi, on en mesure les conséquences.
Aujourd'hui, si on ne peut pas garantir une certaine rentabilité aux propriétaires du secteur protégé, avec les générations qui avancent et les successions qui se déroulent, ce qui est normal, on arrive mathématiquement à une vente de ces biens qui se retrouve avec une survalorisation du prix de vente par rapport, on va dire, à la rentabilité locative. Et donc, une fois qu'ils sont vendus, ils sont souvent vendus à des étrangers qui, eux, y habitent. Et donc, c'est sorti de secteur protégé. Et donc, le but de l'esprit de la loi n'est pas atteint et il faut le modifier.
C'est d'essayer de donner, voilà, de modifier, c'est d'essayer de donner un peu d'espoir aux petits propriétaires d'appartements de 35 avec des loyers qui soient plus en rapport avec la rénovation et les normes, et également que l'État joue son rôle social enfin sur ce sujet, et également de conserver une population stable à Monaco, comme vous savez, notre engagement auprès des enfants du pays n'a pas varié. Intéressant parce qu'on est plus, si vous voulez, on n'est plus dans l'urgence politique de la pression pour obtenir ces opérations dont on avait besoin pour s'occuper d'urgence. Et donc maintenant, on peut véritablement commencer à travailler sur des perspectives à moyen et long terme. Je suis désolé, mais il va falloir que j'arrive, je parte, y compris pour donc si vous avez des questions,
j'ai une question pour revenir à la Tour Odéon et les attributions de commerce. Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce qui est prévu pour un peu être moins isolé pour tout ce beau monde qui va habiter là-bas dans ce quartier qui est assez dépourvu de tout?
Les commerces, ça ne concerne pas la partie domaniale. Les commerces, il y avait 3000 mètres carrés de tête. De locaux, de bureaux et de commerce qui concernent l'opérateur privé. Je pense qu'ils ont eu suffisamment, ils sont suffisamment astucieux pour pouvoir prévoir un minimum de commerce de proximité, puisqu'il n'y a rien. D'ailleurs, je suis frappé d'ailleurs de la fermeture du kiosque en bas à Boulevard d'Italie. Il y a une désertification de ce quartier, je ne comprends pas pourquoi, alors que là, se crée une tour absolument gigantesque. Donc, j'espère que les promoteurs en question, ou en tous les cas que l'État va jouer son rôle pour les obliger, mais s'il ne le fait pas, le Conseil national le fera, pour ouvrir sur place. Vous savez qu'il y a maintenant des structures genre des Franprix, etc., qui sont des commerces à proximité, qui sont très très bien faits, avec des petits kiosques, avec des tabacs inclus dans la structure. Donc, j'espère que ce sera le cas. En ce qui nous concerne sur le socle de la tour, il n'a pas un accès direct dans la rue. Donc on n'a pas pu obtenir ça.
Juste un dernier mot sur la tour. C'est un point important sur lequel nous nous sommes battus. C'est l'entrée à part.
On a obtenu.
Nous avons découvert, parce qu'on a été gratté, nous avons découvert qu'il avait été prévu une entrée, on va dire, une grande entrée, et, voilà, c'était pudique, une autre entrée pour nos compatriotes.
L'entrée des artistes.
Oui, si vous voulez appeler ça.
C'est joli.
Voilà, c'est ça. L'entrée des artistes.
C'est joli.
Et que donc, justement, cette entrée des artistes était inacceptable. Voilà. Inacceptable.
Mais là, ils ont compris.
Alors, on a fait faire des modifications. On a fait le mieux qui était possible de faire au moment où on a pris le dossier, parce qu'on a nettement amélioré les choses. Ceci dit,
on ne l'a pas vu finaliser encore, mais on va faire.
On l'a pas encore finalisé, donc on doit voir comment ça a donné les modifications, parce que c'était. Voilà, on a essayé de transformer une entrée de service en entrée des artistes.
Voilà. Et ce sera, je pense que le résultat sera quand même.
Je pense que ça sera.
Voilà. On a vu ça en chantier il y a 6 mois. Je suis désolé, je suis obligé.
Mais
un agrégeur en la matière.
Enfin. Donc, ça ne serait pas le même gardien, ça ne serait pas les mêmes boîtes aux lettres, pas les mêmes ascenseurs, c'est ça?
Exact. Ça ne sera pas les mêmes. Alors, d'un autre côté, je veux aussi que ça ne sera pas les mêmes prestations.
Ouais.
Puisque, alors, moi, je vais vous dire mon sentiment, il est clair. Je ne suis pas pour ce genre d'opération, je ne l'ai jamais été. Je pense qu'on ne peut pas mêler les choses comme ça, c'est pas fait pour, et que ça doit servir de leçon à l'ensemble du gouvernement, pas dire plus, sur le projet d'avenir. Il ne faut pas faire des choses comme ça, ça ne peut pas marcher. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? L'État va être de sa poche, il a déjà été de sa poche, on va pas revenir sur le dossier de la tour d'Eon, tout le monde le connaît, et il va être une deuxième fois de sa poche, parce que c'est seulement en participant à une partie des charges et en évitant d'appliquer les augmentations de loyer en fonction des hauteurs, parce que sinon on n'arrive pas à des choses impayables, qui fait que, donc bien, on se retrouve dans une situation qui est totalement ubuesque. En plus, avec des compatriotes à qui on va leur dire, tu vois, la piscine elle est là, mais si tu veux y aller, tu payes. En plus des charges, bien. C'est pas que c'est anormal de payer des prestations supplémentaires. C'est que, ça fait quand même un tour à deux vitesses. Quoi. Alors que l'État a quand même payé la moitié du prix. Bon, tour à deux vitesses, c'est énervant. Voilà, si on lui avait donné.
Plus belle question. C'est pas peut-être sur ça vous avez raison, mais disons qu'il y a des gens qui vont acheter ces appartements qui payent
très cher.
Qui donc, ils ont droit à des prestations, la piscine, la spa et tout ça, et qui payent une fortune. Peut-être après on va dire, mais moi je paye tout ça, l'autre personne ne paye pas tout ça, c'est peut-être
mais aussi... Mais c'est bien pour ça, c'est exactement l'exemple qu'on n'est pas suivant. Parce que si vous donnez à tout le monde, d'un côté, soit vous défavorisez les uns, soit vous... C'est une situation de perdant-perdant, alors qu'il faut se mettre dans une situation de gagnant-gagnant. Et c'est ça qui ne plaît pas dans ce projet.
Vous avez raison.
Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je veux dire, vous ne pouvez pas demander à des gens qui ont acheté des appartements plusieurs millions d'euros, hein, et qui s'attendent donc à un certain retour de prestations en fonction de ça. Les mêmes choses et attendre les mêmes demandes, les mêmes exigences que des compatriotes qui ont, j'aimerais bien que tous nos compatriotes aient ces moyens financiers-là, mais ce n'est pas le cas, on le voit bien. Je vous permets de rappeler quand même qu'aux dernières commissions, près de la moitié des jeux d'attribution, les gens qui ont eu, c'est à peu près 50% le nombre de gens qui ont eu. Donc, bien, certes, on est un pays, dire, favorisé par rapport à nos voisins, mais ce n'est pas un pays de milliardaires locaux. Les milliardaires, c'est ceux qui viennent chez nous, c'est pas nos compatriotes pour l'immense majorité.
Même vis-à-vis des autres qui habitent le jardin d'Apolline ou dans les autres immeubles, c'est sûr.
Mais regardez, à Fontier, vous avez une piscine.
Vu que le pays humain, c'est la même.
À Fontier, vous avez une piscine. Au jardin d'Apolline, vous avez, ou à Lélios, vous avez certaines prestations qui sont prises en charge dans le cadre des trucs avec l'électricité solaire et compagnie, ce qui n'est pas le cas de la tour. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a imposé à l'État, sinon ce n'est pas possible, que on différencie les charges, mais même en différenciant les charges, si, c'est ça, je pense qu'il fait pas, mais il peut faire pas notre patriote, c'est pour ça que je voudrais, et je profite de la tribune que vous nous offrez pour essayer de les rassurer, on va avoir un œil extrêmement attentif sur les charges et les rappels de charges, parce que ce qui s'est passé ces dernières années dans certains immeubles, c'est inacceptable, et nous n'accepterons pas que ça se reproduise. Si l'État choisit des gens qui gèrent ces immeubles, hein, qui sont incapables d'estimer le prix des charges comme il faut, mais c'est à lui de mettre au compte. On ne peut pas demander à des gens, du jour au lendemain, à qui on leur a dit vous avez payé 300, ben finalement, il faut sortir 3000 euros. Hein. Parce que peut-être pour certains, aux fonctionnaires, c'est rien, mais pour la majorité de nos compatriotes, c'est beaucoup d'argent. Donc ça, c'est inacceptable. Ça ne sera pas accepté. Et c'est clairement ce qu'on a dit. C'est normal de payer des charges. Maintenant, ce n'est pas nos compatriotes qui ont demandé à aller dans une tour Odéon avec des charges, si elles étaient normalement appliquées, qui étaient des tarifs impossibles. Ils vont, la majorité vont là parce qu'il faut qu'ils se logent. D'ailleurs, moi je les vois parce que j'en vois tout le temps, c'est du boulot. Dire, les appartements qui ont la cote aujourd'hui, ce n'est pas les appartements neufs, c'est les appartements de restitution. Avant, personne ne voulait. Tout le monde disait, ah, moi, j'espère en avoir un dans le neuf. Maintenant, c'est pourvu que j'en ai un en restitution. Parce qu'ils sont refaits, ils sont en bon état. Souvent, là où il y en a le plus, c'est souvent premier, ces quartiers-là. Donc, c'est quand même un quartier qui vit, il y a l'école, il y a ci, il y a les commerces pas loin. C'est-à-dire, les charges ne sont pas élevées et les loyers sont raisonnables. Et ils ont un espoir pour l'acheter en CHT. Et là, il faut se battre. Donc, je dis, c'est pour ça que dans les réflexions, je dis, c'est-à-dire, Monaco, logement, commerce, on n'est pas encore au terme de ça, alors trouver le slogan, on va dire, le logo exact, mais on ne peut pas sortir du problème du logement si on n'a pas une vision dans laquelle on intègre une prise en compte globale de l'ensemble des 3200 appartements pour voir. Pour voir quels appartements presque faire un rapport qualité-prix de chaque appartement pour savoir réellement les choses. Hein. Deuxièmement, de pouvoir se permettre de mener des opérations dans lesquelles on va construire des logements de manière pour pouvoir enlever ceux qui sont dans les appartements de première génération et reconstruire. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui. Vous imaginez si aujourd'hui on avait dit, voilà, il y a 498 dossiers déposé à cette commission. Il y a 240 appartements. Donc, écoutez, non, il n'y a pas 240 appartements parce que tous les appartements de la Tour Odéon, ils vont servir aux gens qui habitent à Hercules. Parce qu'on va le refaire. Et vous serez vous logé dans 10 ans le temps que se reconstruit. Ce n'est pas possible. Quand vous avez une telle demande, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, vous faites des appartements et si de notre côté, quand le parc va augmenter, on va arriver à plus le parc augmente, plus vous devez favoriser la mobilité pour permettre presque au maximum de gens d'habiter l'appartement qui correspond le mieux à leurs besoins et c'est-à-dire, à leurs possibilités. Parce que d'un côté, quand on dit c'est difficile de faire comprendre le gouvernement. Oui, mais on s'en fiche que les loyers soient élevés parce que les gens, ils ont l'ANL, ils sont pris en charge par l'État, et l'État providence, quelque part. Certes, d'abord, pour l'instant, on peut tant mieux, mais surtout, si on ne parle que du côté des gens, il y a des gens qui ne sont pas contents d'avoir un appartement avec l'ANL parce que ceux-là, ils ne pourront jamais faire un CHC dessus parce qu'ils n'auront pas les moyens. Alors, vous vous retrouvez à avoir attribué des appartements à des gens qui, eux, pourraient payer plus cher et seraient prêts à avoir un loyer plus, enfin, un prix de loyer plus élevé et à mettre un CHC plus élevé, qui l'ont pas. Et d'autres qui, eux, se retrouvent à cet appartement, sont bien contents de l'avoir parce qu'ils sont bien logés, mais sans ANL, ne pourraient pas le payer et, quoi qu'il arrive, ne pourraient pas faire un CHC dessus. Donc, il y a quand même aujourd'hui, et tout ça pourquoi? Parce qu'on s'est toujours retrouvé, c'est amusant, parce que je tiens ce discours, je l'ai tenu en 2003, on s'est toujours retrouvé à devoir gérer l'urgence. Et quand vous avez géré l'urgence et que vous devez loger des gens en urgence, vous ne pouvez pas prendre des solutions qui sont les meilleures, vous prenez les moins mauvaises à l'instant. Et moi, je veux sortir de là, et je veux passer de cette solution qui est, on répond à l'urgence, on traite comme on peut les dossiers pour faire construire rapidement parce qu'il y a trop de gens qui s'en demandent, pour une vision plus globale qui permette de sortir de cette situation. C'est ce qu'on essaye de faire avec l'Angevin, où il faut commencer avec l'Angevin. Alors, certes, ça ne sera pas parfait, je suis persuadé que l'Angevin sera. J'espère que l'Angevin sera le premier immeuble d'une nouvelle façon de penser, et que celui qui sera après sera encore mieux. Parce que moi, j'ai visité plein d'appartes, je compte continuer à en visiter d'autres, et c'est pas possible qu'on fasse des 5 pièces avec des cuisines dans lesquelles on ne mange pas. C'est pas possible qu'on fasse des 3 pièces, des 2 pièces dans la taille moyenne dans un immeuble, je sais pas, c'est 70 mètres carrés ou 80 mètres carrés, et des 3 pièces dans la taille moyenne, c'est 90. Parce que c'est ridicule. C'est ridicule. Mais c'est tellement plus facile, c'est la solution de facilité. Et si vous voulez sortir de ça, il faut pouvoir avoir le temps. Et j'accuse pas du tout les services du gouvernement. Je pense qu'il n'y a pas de responsabilité directe, c'est plus subtil que ça. Le vrai problème, c'est que, comme chaque fois, ça a été fait dans l'urgence, et que le gouvernement agit dans l'urgence sur la pression du Conseil national dans l'urgence, bien dans l'urgence, vous prenez la situation la plus rapide qui permet de. Pas forcément celle où vous avez pris du recul pour réfléchir à la meilleure solution. Et ça, il faut en sortir. Voilà.
Juste une question, en rebondissant sur les mètres carrés, vous pouvez indiquer les mètres carrés prochainement livrés des T2, T3, T4, T5, etc. Qui...
Alors, moi, les mètres carrés, pour moi, le problème des mètres carrés, ça ne veut pas dire grand-chose. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas que votre question est très bonne, je vous remercie d'avoir posé. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir un appartement de 140 mètres carrés, parce que déjà, le loyer, on le paye en fonction de la surface qu'on a, où il y a plein de couloirs, 50 salles de bain qui ne vous servent à rien, des living de 70 mètres carrés et des chambres de 12 mètres carrés ou de 9. Il faut sortir de ça, justement. On est là-dedans parce qu'on est allé dire au gouvernement, il faut ça. Le gouvernement, lui, il fait une liste, il arrive, il dit, alors voilà, on fait un programme tellement détaillé, donc il nous faut une chambre qui fasse au moins ça, il nous faut un chiotte qui fasse au moins ça, il nous faut une salle de bain qui fasse au moins ça, il nous faut un truc. Et avec résultat, avec ce truc-là, vous allez avoir peut-être un type qui a une idée géniale d'agencement d'un immeuble, d'un futur immeuble, mais, attendez, monsieur, non, vous êtes exclu, on ne prend pas votre dossier, parce que 3% de vos chiottes font 0,2 m² de moins que ce qui est prescrit. Mais c'est vrai, c'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Si vous mettez des critères, et que vous êtes comme ça, et que derrière les gens ont la pression, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les dossiers, qui c'est qui ne correspond pas aux critères de la dette? Parce que vous n'avez pas le temps. Parce que vous n'avez pas le temps. Parce qu'il faut mener une réflexion plus globale. Parce qu'il faut se poser la vraie question sur les loyers. C'est le même problème, regardez. Le même problème que celui qui fait qu'on a transformé des appartements en bureaux. D'emblée, les gens qui étaient savaient
qui ne seraient pas habitées. Mais il fallait faire. Il fallait faire. Et moi, je suis bien content que l'opposition me reproche d'avoir supprimé 17, et j'espère en supprimer plus. Parce que je n'ai pas supprimé les 17 appartements de la Tour Néon qui étaient prévus pour être. Parce que je pense même que 17, c'était le minimum. J'ai seulement rééquilibré pour que la Tour Néon offre un nombre de logements correspondant à la réalité de ce qu'elle pouvait donner. Et le reste, ce n'est pas des logements. Il y en a, en plus, on en a besoin. Et en plus, ça pourra apporter de l'argent à l'État, puisque ça développe l'économie, et ça permet à des compatriotes eux-mêmes de développer des activités. Donc, voilà. Et pour ma part, je considère que si le gouvernement n'est pas capable de comprendre cette vision-là, et en particulier sur IDA, ce n'est pas le problème d'IDA, c'est parce que c'est un exemple qui est actuel. Si nous ne sommes pas capables de convaincre le gouvernement, que le gouvernement n'est pas capable de nous entendre, vous voyez ça comme vous voulez, de la nécessité d'avoir une vision moyen terme dans ce quartier qui permet, un, de régler le problème d'un logement pour les enfants du pays, parce que c'est un signe fort que l'État doit donner, qui décide enfin de prendre sa responsabilité. Deux, de permettre une restructuration d'un quartier avec des propriétaires et l'État. Et trois, de mener avec ça une opération de tiroir pour refaire des immeubles cèdres et mélèzes qui sont derrière, qui sont comme par hasard des immeubles de première génération. Si on n'est pas capable de convaincre ça, le gouvernement n'est pas capable de on aura échoué. Et moi, à titre personnel, j'en tirerai toutes les conséquences.
Donc, vous l'avez dit.
Ça veut dire que je considérerais que le gouvernement n'a pas réussi sa mission et que donc moi je devrais le sanctionner. Mais j'ai bon espoir d'arriver à le convaincre.
De toute façon, vous vous donnez jusqu'à 5
ans. De toute façon, c'est un truc qui pour moi qui s'inspire avec les gens. Pour vous montrer, c'est pour finir là-dessus. Mais pour montrer un truc important. Aujourd'hui, sur ce quartier, vous allez voir, l'État se dit, il est en train de changer d'avis. Pourquoi? Parce qu'il va proposer un projet qu'une école. Quoi qu'il arrive, il y aura une école, je vous le garantis. Vous ne trouvez pas étonnant, excusez-moi, parce qu'il y a une école, pourquoi? Le fait qu'il y ait Apolline 2, qu'il y ait le jardin d'Apolline, qui est les Mios, qui est tout ça, c'est connu depuis longtemps qu'il y aura ça là-dessus. Les projets datent bien. C'est nous qui les avons validés à l'époque, avant 2008, en 2006. Tout ça, c'est connu bien. Pas dans le détail, mais globalement, ces choses-là sont connues. Les évolutions de la population, que je sache, il n'y a pas eu un baby-boom monégasque monstrueux du jour au lendemain, il ne semble pas. Voilà. Donc, voilà. On sait à peu près. C'est marrant. Tiens, il faut une école. Pourquoi on n'a pas pensé avant? Parce qu'on n'a pas une vision sur le long terme. Parce qu'on ne veut pas régler ces problèmes-là sur le long terme. Parce qu'on n'intègre pas le logement dans une vision urbanistique. Et une vision par quartier. Et moi, mon but, ma motivation, c'est ça.
Voilà. Pour revenir à la Tour Orléans, ce que cette expérience vous a appris? C'est-à-dire, vous avez bien compris, il faut faire soit tout domanial, soit tout privé.
On peut faire de tout. On peut, non. Si on veut faire une opération mixte, moi je ne suis pas du tout une opération mixte. Il faut le prévoir avant. Voir avant les choses, et de manière. Moi je crois beaucoup au fait que l'être humain est capable de trouver des solutions et au génie de l'homme. Je crois. Je suis un positif de ce côté-là. Et déjà, les architectes sont capables de faire des choses fantastiques. Si on leur laisse la possibilité et qu'on ne les enferme pas dans des carcans administratifs. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas commencer par dire moi je veux 43 logements, enfin, je veux 100 logements avec 42 de pièces, 43 machins, je veux un chat qui fasse 5 mètres carrés, moi aussi je veux ça, il ne faut pas lui faire ça. Il faut lui dire nous, voilà nos besoins, voilà ce qu'on veut et voilà la problématique et quelles sont les solutions que vous y apportez. C'est pour ça qu'il faut repenser les choses différemment. C'est ce que j'ai appris, c'est ça. C'est je me suis posé la question de pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Et moi, je suis persuadé que tout le monde fait de son mieux. Moi, je suis persuadé que les gens des services au gouvernement travaillent beaucoup et essayent de bien faire. Et pourquoi, malgré tout, ça ne marche pas aussi bien que ça devrait. Pour des raisons comme ça. Vous savez, des fois, c'est des choses très bien.
Et quand on parle de ce 5 pièces, toujours la tour d'Orléans, dans des étages un peu hauts, on parle de quel étage? Pas les dernières.
C'est les derniers domaniaux.
Voilà.
C'est le 20e, 21e.
C'est le 20e, donc c'est le 26e. Après.
Voilà. Et ça semblerait aussi que les pièces, elles sont très étroites, très petites, c'est vrai.
Parce que, parce que si on voulait faire une opération mixte, publique ou privée, vous ne pouvez pas avoir une architecture, une coque, qui puisse en même temps, satisfaire les besoins d'appartements privés où les surfaces ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes, etc. En termes de, même d'enveloppe extérieure, parce qu'il y a les enveloppes extérieures, il y a les murs mètres qui tiennent et tout, donc ça, d'un côté, et de l'autre, dans la même chose, faire des domaniales. Ou alors, il aurait fallu faire des domaniales de la même taille que les appartements pour les autres. Mais alors là, les loyers, je ne sais pas si les auraient payés. Non, mais, c'est... Moi, j'ai visité la Tour d'Orléans. Je ne vous donne pas mon opinion, pour vous compte, ça n'a aucun intérêt. J'ai visité l'appartement avec la partie pour les monégasques, la partie privée, les appartements, machin. La Tour Odéon, la réalité, c'est que ce n'est pas fait pour faire les appartements de manière telle qu'ils sont. Donc, on a essayé de faire dans des trucs qui étaient pour des trois pièces dans le privé, on a fait des quatre ou cinq pièces, c'est-à-dire des cinq. Ouais, etc. C'est pas fait pour, les circulations ne sont pas faites pour. Alors, ça a été adapté, je ne dis pas moi, personnel, je trouve que les appartements à Tour d'Orléans, pour moi, hein, c'est une vie personnelle, moi j'aime bien la hauteur, le dégager, donc je ne vais pas dire que c'est. Je n'ai pas de vertige, donc ça me plaît. Donc, je trouve que la vue est très agréable, c'est très agréable. Après, les pièces sont petites. Des fois, elles sont un peu biscornues. Mais pourquoi elles sont biscornues? Parce que c'est un truc comme ça. Mais si vous faites une pièce ronde, comme celle-là, voilà, ça, pour le Conseil national, c'est fantastique. Si la moitié de ça, c'est votre living, c'est une catastrophe à meubler. Catastrophe. Donc, ce n'est pas les mêmes besoins. Ce n'est pas les mêmes besoins. Et il faut y changer comme ça. Vous savez pourquoi je donne l'exemple? La dernière chose, c'est pourquoi les cinq pièces, il y en a beaucoup dans le domanial, au dernier étage et en loft. Vous savez pourquoi?
C'est plus facile à meubler à un loft que...
Parce que quand vous avez une ordonnance souveraine qui vous donne un certain étage, si vous faites un loft, ce n'est pas considéré comme un étage, donc vous pouvez gratter cette hauteur en plus, donc ça donne du volume en plus. Et donc ça permettait, par la même surface, puisque vous pouvez mettre que des lofts à ce niveau-là, de faire des appartements. Ne pas perdre les 5 pièces ailleurs, et de gagner ce volume-là. C'est que dans le même volume, officiellement, vous faites plus d'appartements. Mais ça, c'est une vision, c'est-à-dire comptable, contre laquelle qu'on peut comprendre que le gouvernement ait voulu mettre en place, puisqu'il fallait lutter contre la pénurie, et donc livrer beaucoup d'appartements, et donc pas perdre de nombre. Mais en réalité, en faisant ça, vous n'avez que les 5 pièces en loft, qui coûtent une fortune, en réalité, et que vous êtes. Et si dans les demandes, vous avez des gens qui ont des revenus modestes, vous allez les mettre là avec une AML maximale, où dès qu'il y a un gosse qui s'en va, il doit partir tout de suite parce qu'il ne peut plus payer le loyer, etc., etc. Alors qu'il y a des 5 pièces, il faut mettre des 5 pièces en haut, au milieu et en bas. Et il faut mettre des 3 pièces en haut, au milieu et en bas, etc., etc., etc. Ça, je l'ai découvert. Je ne savais pas. Hein. Il n'y a que des trucs comme ça. Il n'y a que des trucs comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait la mauvaise volonté. Je pense qu'il y a un manque de vision globale.
Et aussi, ma collègue parlait aussi du commerce en bas de la Tour d'Orléans. Mais pour ce qui concerne la circulation, on parlait d'un tunnel qui pourrait.
Qui descend.
Avec Boulevard d'Italie.
Sortie parking.
Alors, pour ce qui est de la circulation, il y a deux choses différentes. D'un côté, régler le problème, on va dire,
d'un rond-point
devant la Tour d'Orléans. On n'est pas de défendre la Tour d'Orléans, quand même. Vous connaissez mon positionnement là-dessus. Et de l'autre, une partie qui serait intégrée, mais ça, on n'a pas encore du tout. avec le projet Annonciade 2. Puisque c'est au travers du projet Annonciade 2, les quatre, on n'a pas encore vraiment présenté dans les détails. Le jour où on le présentera, pour ma part, j'insisterai sur le fait que si on fait le projet Annonciade 2, il faut aussi en même temps de faire une voie de dégagement qui permet de relier directement cette
question-là
au pouvoir des moulins, à un grand axe, parce que ce n'est pas possible de circuler par le boulevard de France et compagnie.
L'Annonciade 2, c'est à côté des Annonciades actuelles.
L'Annonciade 2, ça sera en fait là où il y a le collège et le lycée technique qui vont sauter quand le nouveau collège sera fait. Donc il faut attendre la construction du nouveau collège pour pouvoir péter l'Annonciade 2.
Et pour ce qui concerne l'extension en mer, il y aura de demandes là-bas?
Non.
Vous n'allez pas insister auprès du gouvernement pour l'avoir?
Le dossier extension en mer, ce n'est pas l'objet de réflexion aujourd'hui.
Ben, si vous parlez 2030, ne marche pas seulement. Hein.
Tu veux acheter seulement quelque chose?
Le problème de l'extension en mer, c'est d'abord un problème de surface. À partir du moment où le choix a été fait sur les surfaces définies aujourd'hui, si c'est pour faire... Il y a deux sujets. Si c'est pour faire 4 appartements ou 10 appartements pour les Monégasques, on ne sait pas qui c'est qui ira dessus. Moi, personnellement, les villas pour les Monégasques méritants, ce n'est pas mon fait. Voilà. Je tiens à le dire, j'assume totalement. Ça ne veut rien dire. Par contre, faire des appartements de fonction pour les Monégasques qui ont des fonctions et qu'on leur attribue pendant leur fonction, je suis 100% pour. Mais ce n'est pas le même débat. Vous n'avez pas tant de fonction, vous l'avez même. Vous pouvez imaginer que les derniers étages sont que des appartements de fonction, mais le jour où vous quittez la fonction, dans les 6 mois, vous quittez l'appart. Voilà. Donc ça, on va faire. Mais si vous me dites, est-ce que dans l'extension en mer, il doit y avoir des bâtiments publics? C'est pas la même chose. Est-ce qu'il doit y avoir des bâtiments publics? Pour moi, à titre personnel, je considère une extension en mer dans laquelle l'État ne se retrouverait qu'en ayant quelques sous-sols, une pierre froide et des voies de circulation, ça serait un peu dommage et que l'extension en mer étant une extension du territoire national, je trouverais normal qu'un bâtiment public, quelle qu'en soit la destination, soit sur cette extension nationale. Mais je ne fais pas partie de la commission. Je ne peux pas répondre actuellement où on en est, puisque c'est encore à l'étude et ce n'est pas présenté au Conseil national.